à travers la Bible. Une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le Dr Vernon Magee du ministère Through the Bible, produit par Trans World Radio. Réalisation Abdoulaye Sango. Présentation Marcel Mondiuto. Bonne écoute à tous.
Oui, pour nous, le Christ Jésus prie. À cet instant, il plaide. Il intercède pour toi et pour moi qui l'avons contristé. Pour ses enfants, le doux pardon s'obtient auprès du Père par le sang de son sacrifice. Alors, prosternons-nous et adorons-le. Emmanuel Moubitang est à la prise de son. L'instruction à travers la Bible ci est la 1006e, tirée de l'Épître de Jacques, chapitre 1, du verset 13 à 15. Vivement, nous désirons rentrer en contact avec toi après cette méditation. N'hésite pas de poser des questions à propos et dis-nous aussi ce qui aurait marqué ton attention. Souligne déjà nos points de correspondance que voici. Communiquons.
À travers la Bible. À travers la Bible sur TWR. Vos commentaires et vos réflexions nous intéressent. Écrivez-nous à l'adresse suivante. À travers la Bible, 06 BP 21 31 Abidjan 06, Côte d'Ivoire. Téléphone 22 49 03 01. Mobile 00 225 05 51 49 06. Email twr2131@yahoo.fr. Site www.twrafrica.org.
Avec Jacques, le petit frère du Christ Jésus, humblement devenu son esclave. Revoyons la vie du croyant que nous menons ici-bas sur cette terre. Dernièrement, nous avons observé le mot « tentation ». Ce mot est employé de deux manières. D'abord, il a le sens d'épreuve, comme l'Ancien l'a exprimé au verset 12, disant « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. » Jacques 1, verset 12. C'est la méthode par laquelle le Seigneur passe pour former ses disciples. Ce sont des épreuves que nous connaissons en vue d'obtenir la patience. Mais l'autre sens de la tentation, c'est être exposé au mal, au péché, comme nous avons vu au verset 13. Jacques dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Je répète, Jacques chapitre 1, verset 13. Dans les versets précédents, Jacques nous a fait clairement voir que Dieu met ses enfants à l'épreuve dans le but de les former. Mais retenons bien que ce n'est pas au péché qu'il les livre. Dieu ne les livre pas au péché. Ses enfants connaissent des difficultés, des épreuves pendant leur formation. Mais maintenant, au verset 13, le verbe c'est tenter. Le verbe c'est tenter. Il s'agit de l'action. Le diable est celui qui tente. C'est le diable qui expose au mal dans le but de nuire, de détruire. Le Seigneur, lui, il éprouve ses enfants dans le but de faire comprendre à tous que leur amour pour lui est sincère, qui ne le suivent pas pour un gain sordide. Et puis, l'épreuve et la difficulté entraînent à la patience, ce qui est un bien capital dans la vie de l'homme de Dieu. À noter que le Christ Jésus, lui, a été tenté par le diable pour prouver que lui, Jésus-Christ, jamais ne peut pécher. Le péché n'était pas en lui. Jamais, jamais, le diable ne peut l'avoir. Après que le Christ ait vécu 33 ans ici-bas, Satan s'est présenté avec cette tentation qui s'adressait à sa personnalité tout entière, à l'aspect physique, à l'aspect intellectuel et à l'aspect spirituel. Le Seigneur Jésus ne pouvait tomber et cette mise à l'épreuve a eu pour but de prouver qu'il ne pouvait pécher. Sincèrement, s'il avait péché, notre salut serait en péril. Dès l'instant où il aurait cédé au péché, nous n'aurions plus eu de sauveur. Sa tentation était destinée à prouver précisément que Jésus-Christ ne pouvait pécher. À ce point, permets-moi de revenir à l'expérience que j'ai vécue quand j'étais jeune. J'habitais avec mes parents près d'un pont en bois sur l'un des affluents, l'un des cours d'eau qui tombe dans le fleuve Brazos. Le train traverse cette rivière par ce pont. Et quand cette année, il y a eu une inondation, c'était tellement violent que le pont a été complètement détruit. L'État a alors décidé de construire un solide pont, un pont métallique, un pont en fer. Mon cher, lorsque ce pont en fer est achevé, qu'ont fait les techniciens? Les techniciens ont amené deux locomotives qui ont été placées au milieu du pont, notre pont. Puis, ils ont actionné les sifflets. Ah, c'était incroyable. C'était terrible. Le bruit était véritablement assourdissant. Tous ceux qui vivaient dans ce village savaient avec certitude qu'un événement avait lieu. Nous nous sommes tous précipités pour voir ce dont il s'agissait. Nous, les 23 gaillards. Quand nous sommes arrivés, l'un des citoyens le plus courageux a demandé à l'ingénieur, « Que faites-vous? Qu'est-ce qui se passe ?» L'ingénieur a répondu, « Nous avons construit ce pont et nous le testons. » Alors l'homme a demandé, « Pourquoi? Pourquoi? Pensez-vous qu'il pourrait tomber ?» Cet ingénieur s'est levé de toute sa hauteur et a dit, « Non, non, il ne tombera pas, mais nous tenons à le prouver. » Amis, pour la même raison, Jésus a été mis à l'épreuve afin de prouver que toi et moi avons un sauveur qui ne peut en aucun cas pécher. Dieu ne peut être tenté par le péché et Dieu ne te tentera pas par le péché. Mais il arrive que le Seigneur nous permette d'être tenté par le péché. Regarde, en 2 Samuel, chapitre 24, verset 1, nous lisons, « La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant, « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » C'est écrit en 2 Samuel, chapitre 24, verset 1. Regarde, ce dénombrement, ce recensement, franchement, était mauvais. C'était répréhensible. Est-ce que Dieu a tenté David par le mal? Cher ami, pour comprendre la Bible, il nous faut observer toute l'histoire. Prends toute l'histoire et observe-la. En 2 Samuel, nous trouvons la vue, nous avons la vue, l'optique humaine des événements rapportés. D'un point de vue humain, il semble Il semble que Dieu soit en colère contre Israël et qu'il ait poussé David à agir ainsi. Je précise que c'est l'optique, la manière de voir des hommes dans le livre de 2 Samuel. Toutefois, dans le livre de 1 Chronique, qui nous présente l'optique, la manière de voir de Dieu, il est dit, Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Je précise, 1 Chronique, chapitre 21, verset 1. Ici, qui a poussé David à pécher? C'était Satan. C'était Satan, pas Dieu. Dieu a simplement permis à Satan d'agir ainsi parce qu'il était en colère contre Israël et son péché. Le Seigneur ne tente jamais les hommes par le mal. Mais, mon cher, qui est responsable de notre tendance au mal, de notre tendance à pécher, ce désir qui est en nous, qui nous pousse à pécher? Qu'est-ce qui nous pousse à pécher? Quelqu'un me dira, mais tu viens juste de prouver que c'était Satan. Mais ami, regardons ce que nous dit Jacques ici au verset 14. Jacques 1, verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Qu'est-il dit? Nous parlons ici du péché de la chair. Il s'agit du péché de la chair. Qui est responsable quand nous sommes poussés à commettre le mal, quand nous cédons à la tentation? Dieu n'est pas responsable, pas du tout. Le diable non plus. Le diable n'est pas responsable. Toi-même, tu es responsable. Cher ami, quand tu te demandes « Qui m'a tenté à commettre le mal ?» Dieu répond « C'est ta propre nature pécheresse. » Ta nature pécheresse. Voilà où réside le problème. Chacun est tenté. Chaque être humain. Tout comme chacun de nous possède une empreinte digitale différente, chacun possède une nature morale tout à fait différente. Il faut le noter. Nous avons nos propres caractéristiques et nos propres extravagances, nos propres sottises. Tu vois, nous sommes tous différents, chacun pour sa part. Un homme disait à un autre, tu sais, chacun pour sa part a ses propres particularités. Je ne suis pas d'accord avec toi, répond l'autre. Je ne crois pas en avoir une seule. D'accord, dit le premier, mais permets-moi de te poser une question. Remues-tu ton café de la main droite ou de la main gauche? C'est ma question. Alors, l'autre va répondre, il dit, moi, cette question, je remue mon café de la main droite. Ah bon? De la main droite? C'est ta particularité. Lui répond son ami. La majeure des gens remuent leur café avec une cuillère. Laisse-moi te dire que nous avons tous nos particularités. L'un peut être tenté par la boisson, l'autre par les excès de table. Un autre encore peut être tenté dans le domaine du sexe. Le problème réside toujours dans l'individu. Aucune influence extérieure n'est nécessaire pour nous pousser à pécher. Le problème réside en nous, dans notre nature pécheresse. Oh, je pense au garçon qui jouait seul un soir au salon. Il s'était emparé de la boîte de chocolat et faisait du bruit. Sa mère l'a appelé et a demandé, « Mais Willy, qu'est-ce que tu fais au salon ?» Et l'enfant dit, « Maman, je combats la tentation. » Tu vois, il se trouvait au mauvais endroit pour combattre la tentation. Et beaucoup d'adultes se trouvent aujourd'hui au même endroit, au mauvais endroit. Tout n'est pas mauvais en soi, mais l'usage que nous faisons est parfois mauvais. La nourriture est bonne, mais l'on peut devenir glouton. L'alcool soigne, mais l'alcoolisme nous guette si l'on en abuse. La sexualité est une très bonne chose si elle s'exerce dans les limites du mariage. Dans le cas contraire, nous en paierons les conséquences. Notre société connaît une véritable épidémie de maladies vénériennes à cause du laxisme de la permissivité actuelle. Beaucoup de psychologues essaient de nous aider à nous débarrasser de nos complexes de culpabilité. Un psychologue chrétien qui enseignait dans l'une de nos facultés en Californie ici m'a dit un jour, « Docteur, tu dois mettre davantage l'accent dans ton enseignement sur le complexe de culpabilité. Le complexe de culpabilité fait autant partie de toi que ton bras droit. Tu ne peux du tout t'en débarrasser. » Mais le psychologue incrédule essaie d'ôter le complexe de culpabilité de la mauvaise manière. Ainsi, une chrétienne m'a appelé une fois et m'a dit, « Docteur Magui, un événement effrayant m'est arrivé. J'ai eu un véritable problème et j'étais au bord de la dépression nerveuse à cause de certaines épreuves que j'ai traversées. Je me suis rendu chez un psychologue que m'avait recommandé mon docteur. Quand il a découvert que j'étais une chrétienne, il m'a dit ceci, pasteur. Il m'a dit, ce dont tu as besoin est de descendre au bar et de choisir le premier homme que tu trouveras. Sors avec lui. Alors, tu te débarrasseras de ton complexe de culpabilité. Voilà ce qu'il m'a dit, pasteur. Mon cher, comme cette femme, je reconnais qu'un tel conseil est affreux. Il est incroyable. Qu'est-ce que cela veut dire? Et voici un autre langage que d'autres psychologues tiennent. Ils disent, quel est votre arrière-plan? Est-ce que votre mère vous aimait? Est-ce qu'un événement inhabituel s'est produit alors que vous étiez dans le sein de votre mère? Et si tu réponds, ma mère a été surprise par un orage lorsqu'elle m'attendait, le psychologue dira, cela explique ton état. Mon cher, vois-tu, en réalité, il fait porter la responsabilité des problèmes de son patient à la pauvre mère. Sache que tu peux résoudre un grand nombre de problèmes dont tu rends les autres responsables si tu disais au Seigneur Jésus, qui est vivant et qui est assis à la droite de Dieu, ceci. Je suis pécheur, je suis coupable. Alors, il ôtera ton complexe de culpabilité. Il est le seul à pouvoir le faire. L'incitation à pécher doit trouver une cause interne. Jacques dit que notre propre convoitise, c'est-à-dire le désir intense, non maîtrisé, nous pousse à commettre le mal. Le Seigneur Jésus a dit, « J'attirerai tous les hommes à moi. » Jean 12, verset 32, mais le moqueur affirme, « Moi, il ne m'attirera pas. » Mon cher, il ne te forcera pas. Osée nous a dit qu'il utilisera des cordes d'amour pour nous attirer à lui. Il veut nous garder par sa grâce et son amour. Aujourd'hui, le mal est à la fois séduisant et captivant. La Bible nous dit que Moïse avait d'abord goûté au plaisir du péché. L'homme peut être attiré et mordre à l'hameçon. S'il cède, il deviendra vite esclave de l'alcool ou de la drogue. Jacques chapitre 1, verset 15. puis la convoitise lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. En d'autres termes, lorsque le désir de notre âme se réalise, il donne naissance au péché et le péché entraîne la mort. Jacques emploie ici un mot très intéressant. Puis la convoitise lorsqu'elle a conçu, concevoir. Ce mot signifie en réalité attendre un enfant. La conception est le résultat de l'union de deux personnes. Le désir de notre vieille nature s'unit à la tentation extérieure et devient un péché. Le Seigneur Jésus a dit, « Quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. » Pourquoi ? Parce que tout commence dans le cœur et se transforme en acte. Christ a aussi dit, « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Et pourquoi ? Parce que tout commence dans ton cœur. C'est toujours là que le péché commence. Une question surgit. La tentation est-elle un péché? Ben non. Non, absolument pas. C'est quand la conception a lieu, quand la pensée du cœur se transforme en acte, que la tentation devient un péché. Martin Luther a dit, vous ne pouvez empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête. Par contre, vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos chevets. Le péché est la consommation de l'acte à la fois intérieur et extérieur. La tentation en elle-même n'est pas un péché. Nous avons tous une nature pécheresse. Nul n'est besoin de nous faire des illusions à cet égard. Nous avons tous été tentés de commettre le mal. Chaque personne a ses propres faiblesses. L'un peut être glouton, l'autre porté au commérage, au bavardage, et ces deux péchés sont issus de la chair, de notre être intérieur. Seul le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire, « Le prince du monde n'a rien en moi. » Jean 14, verset 30. Puis la convoitise lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Il ne peut y avoir de fausse couche, d'avortement. La convoitise va enfanter. Quand une pensée mauvaise issue du cœur s'unit à la tentation extérieure, il y a conception, et la conception, c'est le péché. Aujourd'hui, nous excusons le péché, notre mauvais caractère, nos commérages, nous accusons un grand nombre de péchés bénis, et même l'immoralité grossière. Mais la Bible les qualifie tous de péché. Ce sont des péchés. Et le péché étant consommé, produit la mort. La Bible parle de trois sortes de morts. Il y a un, la mort physique, qui concerne tout être humain. Deux, la mort spirituelle, qui est la condition de l'homme perdu. Il est mort dans ses offenses et dans ses péchés. Vois Éphésiens 2, verset 1. Enfin, trois, la mort éternelle, qui est le destin de l'incroyant. La mort signifie d'abord une séparation. Donc, pour un croyant, cela veut dire que lorsque le péché survient dans sa vie et devient un acte, sa communion avec Dieu est rompue. La communion est coupée. Il y a une séparation. En 1 Jean chapitre 1 verset 6, nous lisons, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Écoute, tu ne peux être en communion avec lui tout en permettant au péché de régner sans cesse dans ta vie. Aujourd'hui, l'adultère est le péché à la mode. C'est un péché auquel tout le monde a été confronté et ce n'est pas nouveau. Je me rappelle d'un beau jeune homme qui est venu vers moi et a dit, « Pasteur, je suis tombé amoureux d'une très belle jeune femme, et je veux qu'elle soit à moi. » Je lui ai demandé, « Lui as-tu demandé de t'épouser ?»« Non, pas exactement, » dit-il. « Elle est mariée. » Alors je lui dis, « Tu ferais mieux d'abandonner cette idée tout de suite. » Et le jeune homme a poursuivi, il m'a dit, « Mais
Je veux te demander s'il serait répréhensible qu'elle demande le divorce et que nous nous marions. » Je lui ai répondu, « Quoi ? Bien sûr que ce serait très mauvais, très, très répréhensible. Tu as été tenté très fortement, mais comme enfant de Dieu, tu ne dois pas commettre ce péché. » Et j'ai continué à lui citer plusieurs exemples de couples qui ont agi de cette manière, mais n'ont jamais été heureux. Ami, il est tragique aujourd'hui de voir que les gens pensent pouvoir vivre avec le péché. Quand la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Tout ce que la convoitise peut apporter dans le monde est le péché, et le péché entraîne la mort. Le péché interrompt, le péché coupe ta communion avec Dieu si tu es un enfant de Dieu, et Dieu te jugera à moins que tu ne te juges toi-même. Ce jeune homme a quitté mon bureau après que j'ai tenté de susciter en lui la crainte de Dieu. C'était un merveilleux chrétien, mais évidemment, il avait été tenté. Il est revenu quelques semaines plus tard et m'a dit, « Docteur m'a dit, nous avons pris une décision. » Quand il m'a dit cela, je craignais qu'il ait pris la mauvaise décision, mais il a poursuivi, il a dit, « Écoute, docteur, nous reconnaissons que dans cette vie, nous ne pourrons jamais être réunis. C'est totalement hors de question pour nous. Alors, je demande simplement à Dieu de nous permettre d'être ensemble un jour au ciel. » Le jeune homme travaillait dans une très grande entreprise et il m'a dit qu'il avait demandé son transfert dans une autre ville. Moins d'un mois plus tard, il est venu vers moi après le culte, m'a serré la main et m'a dit au revoir. Puis il est parti à son nouveau poste, loin de la jeune femme. La tentation, il y en a plusieurs aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens disent « Le diable m'a tenté ». Cher ami, la tentation ne peut concevoir, ne peut enfanter si elle ne s'unit au désir de ta propre nature pécheresse. Il faut qu'il y ait cette union. Malheureusement, quand cela se produit, le péché en sort et le péché entraîne la mort. Si tu es un enfant de Dieu, ta communion avec Dieu sera aussitôt interrompue et c'est une sorte de mort. Voilà, nous nous arrêtons là. Que le Seigneur soit avec toi et qu'il te bénisse. À bientôt.
Vous venez de suivre le programme À travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon McGee du ministère Trouve Bible, une production de Trans World Radio. Pour tout contact, écrivez-nous à l'adresse suivante. À travers la Bible, 06, boîte postale 2131, Abidjan 06, Côte d'Ivoire. Téléphone 22 49 03 01. Que Dieu vous bénisse.